Donc le micro est posé, tout ce que vous pouvez dire à partir de maintenant, c'est pour avoir être reconnu contre
vous. Vous avez le droit de
on évite de taper du pied juste à côté du micro.
Oui, voilà, c'est les petits bruits, c'est les bruits de shit aussi. Mais c'est remarque, ça donne un côté vivant au podcast.
Tu veux dire que c'est croustillant notre discussion?
Voilà.
Bon, c'est gentil, encore.
Aujourd'hui, comme d'hab, Moebius Eye, Chicac, ton pseudo, je suis désolé.
Xeneris.
Xeneris, j'essaie de m'en souvenir. Zigazou et Nyark, c'est moi.
Toi aussi, c'est pour ce Z.
Alors aujourd'hui, on n'a que des sujets qui vont prêter à la digression et au troll, parce qu'on n'a rien préparé. Donc au début, on va essayer de définir la différence entre un programmeur et un développeur web. Ensuite, les participants au podcast, je vais leur demander, je vais leur dire PHP, HTML, CSS, JavaScript, et c'est à eux de trouver la problématique, parce que j'ai rien trouvé. Moebius nous présente le MSP430, en résumé c'est une alternative au Arduino. Le C2I, donc le certifié CHCAC, qui vient de nous présenter ça. C'est pas grave, on va trouver. Donc c'est le certificat internet ou je sais plus quoi.
Informatique internet.
Ouais. Ensuite, il y aura la chronique Les États-Unis par Moebius Eye.
Mais tu me parles en anglais.
D'accord. Et tu nous parles de SSL, de strip, de SSL strip et de SSL sniff.
Ouais.
Alors, la différence entre un programmeur et un développeur web.
Toi, t'es un programmeur ou un développeur web?
Programmeur. Je fais un peu les deux. Je me cache. Je fais comme si je n'existais pas.
Donc tu programmes sous quoi?
Alors déjà, programmeur web, c'est, enfin développeur web, c'est large, parce que ça veut dire quoi?
On va trouver la solution pratique, c'est programmeur web.
PHP, J2E, page syntique en HTML.
ASP.NET.
Ah, on va prendre la technologie la plus utilisée, hein, ouais. Du PHP quoi.
PHP, j'en fais quasiment plus parce que. En fait, alors là pour descendre.
Mais vas-y, troll.
Oui, je vais même pas troller là, c'est juste pour. Voilà, vous n'aurez plus aucune estime pour moi, déjà qu'elle ne doit pas voler bien haut. Moi, PHP, je m'en sers surtout en langage de script, et vraiment en langage de script et pas pour des pages web.
Mais je m'en sers aussi en langage de script.
C'est une alternative à du shell pour moi.
Je m'en sers pas mal en langage de script aussi.
Okay,
voilà.
Je trouve le PHP
plus
pratique.
Je me mets en sous WWData et après je fais des comptables moins eux.
Bah, c'est plus universel quand tu sois sur une machine Microsoft ou.
Et mine de rien, t'as quelques outils, t'as les bibliothèques PHP qui sont intégrées, donc quand tu veux faire un script, t'as besoin d'attaquer des bases de données. Mais mine de rien, il y a même des bibliothèques Microsoft SQL Server dans PHP. Ouais.
Enfin, t'as un Propython en face de toi. Oui, tout ça avec.
Moi, Propython. C'est plutôt Zigazou ou Propython.
Bon.
T'es pro quoi, toi?
Je suis pro ce qu'il y a.
D'accord. Selon les projets.
C'est Zigazou.
C'est-à-dire que j'ai fait un petit peu tous les langages déjà parce que ça permet d'étendre sa culture et en plus de pouvoir l'étaler comme de la confiture après, n'est-ce pas? J'ai fait du basic, j'ai fait de l'assembleur Z80, de l'assembleur 68000, de l'assembleur 386, du logo. Ne me rigolez pas,
j'en ai fait aussi.
Du Pascal, du C, du C++, du Java. J'ai fait donc du PHP. J'ai fait du Progress, du KGL Progress, un langage couplé à un système de base de données. Et je fais du PHP et je fais aussi régulièrement du Python. Je fais aussi pas mal de script shell. J'ai essayé de me mettre à Smalltalk. J'ai fait le premier tutoriel de Haskell.
Français.
Je m'en suis arraché les cheveux, mais c'est plaisant, franchement.
Oui, sauf que déjà rien que le tutoriel d'habitude, c'est normalement c'est le truc que tu fais les doigts dans le nez, quoi.
Ouais,
t'as déjà fait un peu de programmation.
T'as déjà fait un tutoriel de OpenFuck. Ouais,
c'est autre chose. C'est pas utilisable.
C'est autre chose. Donc voilà. Généralement, j'ai tendance à prendre le langage qui va me paraître le plus adapté à faire la tâche qu'on me demande. Donc là, à l'heure actuelle, c'est PHP. C'est pas parce que c'est un bon langage, c'est pas parce que c'est le plus rapide, c'est pas parce que ceci ou cela. C'est tout simplement parce que c'est celui sur lequel tu vas trouver la plus grosse communauté. Tu vas trouver les CMS les plus avancés, pour l'instant, ils sont sous PHP. Donc c'est comme je fais du web, je suis développeur web. La problématique, elle est très simple. Hein, c'est...
Il n'y a pas de concurrent.
Donc tu as dit, je suis développeur web. Ça, c'est ton métier. Mais toi, tu te sens quoi, programmeur ou développeur web?
En gros, je vais te dire, ça me gonfle les personnes qui font un petit peu de, qui s'occupent d'un site web et qui sur leur carte de visite mettent chef de projet web.
J'ai déployé un WordPress.
Même toi, chef de projet, il n'est pas censé savoir développer. Hein,
non, mais il y en a plein justement parce qu'ils ont mis en place un site web.
Oui, voilà,
chef de projet web.
Je me rappelle, je crois que je l'ai fait à 8 ans. Moi, ça.
J'étais stagiaire.
Quand il y a des stagiaires de 3e qui viennent, je leur dis voilà, je suis un webmaster technique.
Oui, et encore, tu dois devoir leur expliquer que c'est parce que tu dis technique, parce que tu t'occupes du fonctionnement du site et pas du contenu.
Voilà. Parce que si tu vas sur la page webmaster de Wikipédia, ils vont te donner en fait toutes les techniques en fait, enfin tous les domaines.
Il y a le webmaster éditorial aussi.
Voilà, il y a le webmaster éditorial, le community management, le SEO, il y a l'admin système, l'admin réseau. Enfin, quand tu dis webmaster en large, ça couvre tout un tas de métiers qui n'ont pas forcément grand chose à voir les uns les autres.
Sans détailler, moi j'ai eu à rédiger, je vais même me mettre dans une case pour la GPMC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc vous connaissez à peu près ce que je fais, hein, mais j'étais bien emmerdé. Parce que webmaster, oui,
un peu.
Une heure par semaine. Administrateur réseau, oui, 4 heures par semaine. voilà. Technicien réseau, oui, 1 heure ou 2 par semaine. Enfin voilà, enfin. Un peu tôt quoi.
Développeur visuel ASIC 6.
Là, je te remercie parce que effectivement ça il le dit pas en micro. Hein.
Oui, j'ai commencé à développer, disons que j'ai bien repris le développement il y a 6 ans, c'était sur le visuel de l'Exis et je suis passé... En fait, j'ai développé une gestion électronique de documents et un système de bons de travaux qui s'est retrouvé d'ailleurs à l'étranger, à Bruxelles, etc. dans l'entreprise. Attention, j'avais publié le code. Enfin, j'ai eu des retours. En Visual Basic 6, et un jour je me suis dit, Visual Basic 6, on avait dû passer à Windows XP ou Vista, je ne sais plus, commencer à avoir des fenêtres un peu obsolètes. Et un jour, je me suis dit, allez, je prends le temps, je redéveloppe tout sous visual.net. Je ne sais plus ce que c'était à l'époque. Je change le Visual 6 pour aller au Visual 7. J'ai mis 6 mois à redévelopper, parce qu'au passage, j'ai redéveloppé plein de fonctionnalités. Hein. Il y a quand même une période de conception qui est plus longue. C'était surtout des conceptions. J'ai mis 6 mois à redévelopper un truc, donc à temps partiel. Hein, je ne fais pas que ça. Mon métier, c'est pas juste faire du muse sur Visual Studio. Et le jour où j'ai voulu le déployer, donc j'ai mis 6 mois à coder le truc, je commence à déployer sur mon PC, ça marchait normal, c'était le PC de développement. Je déploie sur le PC de ma collègue de bureau d'à côté, et là, le temps de mettre le .NET framework à jour, etc., j'y ai passé 2 heures. Bon, je me dis, bon, j'essaie de trouver des raccourcis pour me faire un package pour tout installer. En fait, j'ai estimé que je passerais 2 heures sur chaque ordinateur. Donc, on s'est tapé plusieurs nuits blanches à redévelopper tout mon PHP. Quoi. Voilà.
Et donc, de programmeur, tu es devenu développeur web.
Ouais. C'est exactement.
Est-ce l'évolution, la révolution?
Non, mais j'en suis aussi ravi parce que du coup, maintenant, j'ai super progressé en PHP, en HTML, en JavaScript, à cette époque-là. Et maintenant, c'est vrai que quand je mets une mise à jour, c'est quand même génial d'avoir pas une application à mettre à jour sur tous les postes, mais...
Et maintenant, tu fais tout avec Google Docs, non?
Donc maintenant, je mets des failles de sécurité sur Internet. Avant, c'était juste dans le réseau local, maintenant, c'est sur Internet, quand même.
Donc oui, la différence entre un programmeur et un développeur web?
Une réponse.
Il n'y en a pas.
Ça aurait tendance à dire que le programmeur ne peut plus aller au bas niveau. Le développeur va utiliser des librairies toutes faites.
Le développeur web, c'est un programmeur qui s'occupe de tous les logiciels qui ont une interface web.
Non, ça, c'est pas bon, ça.
c'est pas drôle.
le fait de parler de développeur web, c'est un peu comme si tu parlais il y a 10-15 ans d'un développeur en interface graphique, quoi. Oui. En mode fenêtré.
Oui, voilà. Disons que c'est le langage de haut niveau qui va utiliser plus le développeur web, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose de basique pour le...
Je pense même pas, c'est juste une catégorie de programmeur.
Oui, c'est aussi raffiné sur la taxonomie des métiers.
Ouais. Ouais.
Donc on remercie Nia pour cette question qui n'en était pas une finalement.
Alors maintenant, je vous dis justement, on fait un lien un programmeur web, je vous dis PHP, HTML, CSS, JavaScript, et ça vous trouvez la problématique. C'est comme à l'oral.
Alors je sais pas s'il y avait une problématique, mais... sur le couple HTML-CSS, donc je voulais soulever en fait le fait que malgré toutes les années de développement, on en est au CSS3, le CSS4 ne devrait pas trop tarder. Le HTML, on en est déjà au 5, avec toutes les nouveautés qu'on sait. Et au final, ce couple-là, donc, où on voudrait que le CSS s'occupe de l'aspect visuel et le HTML de l'aspect structure et contenu, et on s'aperçoit qu'on est malgré tout toujours obligé d'insérer des notions d'aspect graphique dans le code HTML.
C'est toujours vrai en HTML5 CSS3.
C'est toujours vrai en HTML5 CSS3 parce que si tu commences à utiliser tout ce qui est les frameworks CSS, en fait, tu vas décaler le fait de gérer la présentation des balises, tu vas la décaler en fait. Tu vas la décaler en fait dans les classes. C'est-à-dire que maintenant, quand tu utilises un framework CSS, surtout les derniers responsifs, tu vas par exemple dire, ben voilà, ce bloc-là, il a une classe 12 colonnes. Ce bloc-là, il a une classe 4 colonnes. Et donc, ces classes-là, en fait, déterminent la largeur de ton bloc, donc déterminent un aspect visuel. Okay. Et ça, tu le rentres directement dans la structure de ton HTML.
Quelque part, il y a aussi, entre guillemets, le CSS par défaut. Enfin, quand la balise ISP, par défaut, c'est du display inline, si je ne me trompe pas.
Non. La balise ISP, c'est du display block.
Voilà. Mais par défaut, il y a une configuration. Et c'est vrai que du coup...
Il y a une feuille de style, par défaut, dans chaque navigateur.
Voilà. Donc, du coup, aussi, on peut faire un peu de présentation, parce que quelque part, en utilisant la feuille de style par défaut.
Non, mais c'est pas vraiment un problème. C'est pas un problème, parce que... cette feuille-là, si tu veux, quand tu fais ton code HTML reste du code de structure. Ouais. C'est-à-dire qu'un paragraphe, quel que soit son aspect graphique, ça reste un paragraphe, ça reste un groupe de mots et de phrases. Un tableau, c'est fait aussi pour présenter des données pour mettre des données tabulaires. Oui, c'est pas fait pour faire de la mise en page.
Non, je sais pas. Dernièrement, j'ai fait une.
Mais j'ai mis un border.
J'ai fait un gestionnaire de ressources avec un beau tableau. J'ai bien fait du CSS. J'ai pas fait de tableau. Je suis fier de moi parce que j'ai hésité à me faciliter la vie à faire un tableau et puis voilà quoi. TRTD.
Ça a d'ailleurs donné pas mal de discussions justement sur le HTML, puisque est-ce que la balise B, pas BR mais HR, est-ce que ça doit être une balise qui fait partie du HTML ou est-ce qu'il faudrait qu'on la mette en fait dans le CSS et qu'on l'interdise dans le HTML?
Border-bottom.
Non. Ça, c'est du CSS.
Oui, mais tu peux faire un trait vertical en définissant sans...
Ouais, parce que c'est intégré forcément. Enfin, là, c'est une balise, ton HR, il peut être extrait, certainement, je connais pas la DTD par cœur, mais probablement extrait de tes divs ou autres, alors que si tu fais un border, etc., ça va être forcément pour... Enfin, ça va être intégré dans une autre balise.
Mais ça me fait marrer, ça veut dire c'est des balises qu'on ferme de suite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à mettre dans la balise, quoi. Quelque part, il y a un truc...
En théorie, les balises vides... Attends, tu parles de quoi là? Tu parles de...
Des balises vides, justement, BR slash HR, enfin...
Bah, BR slash, en fait, c'est BR slash BR.
Oui, voilà, c'est BR slash BR. Et tu peux rien mettre dedans.
Bah, c'est comme les balises IMG, hein.
Oui.
Dans les balises IMG, tout est dans les attributs.
Oui, mais sauf que ça va, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'attributs. Enfin, tu peux mettre un style, quand même. Mais...
Oui, et d'ailleurs,
le texte que tu mets dedans, la balise IMG...
C'est dans les attributs. Pas de texte dans
une balise IMG. Oui, tu mets l'image.
Tu mets éventuellement dans le href.
Tu mets les IMG.
C'est
dans les attributs.
C'est alt égal.
Si, ça marche. Mais c'est dans les attributs.
Ah, c'est dans les attributs. Ah, je t'ai compris, c'est dans la balise, tu vois. Je ne fais pas du HTML attentif.
Donc, première problématique soulevée, c'est.
Pareil pour la balise IMG. On attend avec impatience d'avoir une balise qui permet de faire des images en responsif. Parce que la balise IMG. T'es obligé de la donner et de la travailler en pixels. Alors que à côté, on va te dire, bon ben voilà, les polices de caractère, faut les travailler en relatif.
Mais tu mets un...
Ouais, tu peux faire un bien crasseux, faire une div avec un background image.
Non, tu mets un max width, 100%.
Oui, et donc si tu prévois donc de pouvoir afficher ça...
Mais t'as sur des écrans, quand il va se réduire, du coup, t'as l'image réduite.
Si tu prévois de pouvoir afficher ça sur des écrans à 300 dpi ou des écrans de super grande dimension ou des écrans super petits, ça veut dire que tu vas être obligé de charger pour les écrans Retina.
Oui,
tu vas être obligé de charger une grosse image, alors que la 3G, je le rappelle, on n'est pas encore à un débit de malade, hein, quand même. Hein.
C'est vrai. Voilà, mais enfin moi j'utilise le max.
Et non seulement donc on n'est pas un débit de malade, mais en plus les temps de connexion, les temps de latence sont énormes.
C'est clair. Mais hormis ça, enfin, en plus c'est carrément optimisé, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de frameworks qui justement font un peu du lazy ou qui déterminent, enfin qui refont ça plutôt côté serveur que côté client.
Ouais. Le redimensionnement des images.
Ouais. Enfin l'adaptation et justement à ton
PM. Ouais, mais généralement, ça, si tu veux pouvoir les utiliser sur ton. Sur un mobile ou autre.
Il faut du JavaScript.
Il faut généralement du JavaScript. Ouais. Parce qu'on sait que se baser sur la signature de. Se baser sur la signature sur le user agent, ça marche pas super.
Alors moi j'ai une problématique à vous poser.
Et encore pour parler de HTML CSS. Fais chier Internet Explorer. Voilà, ça c'est dit.
Parce que les dernières versions respectent les. Non.
Oui, alors.
J'admets qu'il y a les anciennes versions qui comptent toujours et qui font toujours chier.
Voilà. Je te rappelle que chez mon employeur, on a encore toute une base en Windows XP.
Ah oui.
Donc, Windows XP, Internet Explorer 8.
Ah, c'est le max. Et voilà, c'est pas mal parce que moi, je pense que je connais encore pas mal de monde en.
Ouais, sauf que. Les media queries.
Ah, j'ai vu l'alerte de Dailymotion.
Internet Explorer 9. Malo, guys. Malo, hein. Puis après, je te parle pas, là, j'ai fait un peu de JavaScript, puisque pour, sur le taf que je suis en train de faire, bah, ça nécessite de faire du JavaScript. Alors déjà, tu te dis merci jQuery, parce que ça permet quand même de corriger pas mal de. Ouais, non, mais attends.
Non, c'est bien.
Quand tu dois te taper toute la compatibilité avec les X navigateurs, ton navigateur.
T'as un truc, JavaScript, qui est une surcouche à ton navigateur. Voilà. Tu rajoutes encore une surcouche de jQuery pour faire ton programme.
Sauf que, il y a des choses que tu ne peux pas faire.
Oui, mais c'est moche.
Par exemple, les media queries, tu peux pas, en media queries, décider du JavaScript ou du CSS à charger, par exemple, si tu es en mode tactile ou en mode souris. Et tu vois, effectivement, on fait, y a des media queries pour faire justement la bascule entre les différentes résolutions d'écran, mais ce qui manque aussi, ce qui manque surtout, c'est justement la différenciation entre une navigation à la souris et une navigation tactile. Parce que c'est pas du tout la même chose. Tu vois, la souris, c'est quand même super agréable de pouvoir activer un menu juste en le survolant. Par contre, ça, évidemment, au tactile, ça fonctionne plus. Et ensuite, quand tu es à la souris, tu vas être beaucoup plus précis que quand tu es juste au doigt. Quand tu dois taper sur une ligne qui fait à peine 5 mm de hauteur du bout du doigt parce que juste en dessous, tu as un autre lien, bon, c'est quand même super chiant. Donc, j'ai dû faire du JavaScript pour que le système décide si il était en mode souris ou en mode tactile. Et là encore, je dis encore merci Microsoft, n'est-ce pas? Parce que autant tu prends la plupart des navigateurs web pour mobile, donc du style Opera, du style Android, Firefox,
c'est cool. D'ailleurs, Chrome, sur Windows Mobile, il y a c'est Internet
Explorer, etc. Ouais. Sauf que tu peux pas détecter de la même façon.
Bon, en même temps, Windows Mobile, on n'est pas obligé là.
Oui, mais dans une collectivité territoriale, t'as pas normalement à faire de distinguo et à dire à l'utilisateur ce qu'il doit avoir comme matériel.
C'est vrai.
Voilà.
Moi j'avais une autre problématique, c'est que PHP, HTML, JavaScript, c'est pas un couple, c'est une partouze.
Il attendait depuis tout à l'heure de pouvoir sortir celle-là.
ça se voyait. Elle n'est pas notée encore sur mon notepad.
Alors tu vois, PHP, ce que je trouve assez hallucinant maintenant, c'est que la plupart des frameworks embarquent un système de templating, alors que PHP à la base est prévu pour ça.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui développent dans des frameworks en PHP? Enfin, moi je développe avec Gedit, hein, enfin, ou Carwhite. Hein, mais...
Alors, tu es un cas un peu à part quand même.
Ouais.
Mais beaucoup de programmes justement se basent sur des frameworks, alors que ce soit des frameworks super évolués comme Symfony 2, ou que ce soit des frameworks plus légers du style CodeUnitor et compagnie. La plupart des développeurs web que tu vas pouvoir trouver dans des boîtes vont s'appuyer sur ce type d'outils. Parce que, c'est tu vois, quand tu dois te taper les compatibilités avec Microsoft, quand tu dois te taper le support entre les différents serveurs, entre les différentes versions de PHP, etc., c'est quand même bien sympa quand d'autres se sont déjà cassés la tête.
Moi, je développe pour mon LAN. La plupart du développement, c'est ça. Et j'ai fini par craquer parce que j'avais quelques modules de l'extranet qui marchaient que sous Firefox, mais encore c'était mon voisin de bureau qui l'utilisait, donc voilà, c'était pour ses systèmes de commandeur pas ou des trucs comme ça. Et j'ai fini par craquer, j'ai installé Firefox à tout le monde, j'ai fait une belle GPO pour installer Firefox et je l'ai mis par défaut à tout le monde. Voilà. Donc,
là, tu as la chance,
parce que tu avais le droit de le faire.
Parce que tu as de la chance, tu maîtrises ton environnement.
Je suis Dieu, moi, dans le réseau. Je suis root sous Linux, je suis administrateur sous Windows et voilà.
Et je vous emmerde.
Tu vois, quand.
Et j'ai suffisamment paramétré l'ordinateur pour qu'il m'obéisse à distance.
Ouais. Quand par exemple, tu vois, je mets des vidéos sur mon site, généralement je vais utiliser YouTube ou Dailymotion.
Tu fais pas des balises vidéo HTML5 avec du MP4
Dailymotion le fait.
Ah oui, tu l'as. Oui, mais il détecte la sur du navigateur.
Il détecte, voilà, ouais. Il détecte automatiquement. Eh bien, quand je fais ça, généralement, il faut que je fasse de la pédagogie en interne, parce qu'il faut que j'explique aux gens, bah, vous voyez les vidéos, là, ce que nous on bosse et ce sur quoi on bosse et qu'on met en ligne, bah, vous pourrez les voir seulement avant 9h, entre midi et 14h et après 17h.
Je suis pas obligé. Parce que vous êtes chez Free.
Non, tout simplement parce qu'ils ont un proxy et des règles qui disent bon, pas de Dailymotion et pas de YouTube.
Ah, pas con.
Ah, oui. Ouais, c'est machin. Et tout ça pour dire que je reviens à ma problématique.
De partout.
Oui, bah, mon histoire de partout. Est-ce que vous n'êtes pas nostalgique de l'époque où, le World Wide Web n'existait pas et on se. Il suffisait de développer un .exe ou un autre truc avec un seul langage de programmation.
Ouais, parce que comme tu veux dire.
Aujourd'hui, tu fais du web, tu es obligé d'avoir au moins 4 langages de programmation. Mais quoi que l'HTML, c'est pas vraiment un langage, mais enfin, c'est un langage de balise. Hein.
Non, ouais,
c'est assez associé.
Il y avait quoi? Il y avait combien?
4. PHP, HTML, CSS.
Oui,
avant l'époque du web.
Oui, ben.
Mais quand tu voulais diffuser un programme, tu le développais que dans un seul langage, tu compilais et pouf, tu faisais la disquette.
Ouais, ça dépend sur.
C'est
quoi ta question? Alors, la question, est-ce que
c'est. Je pense qu'on a plus de la moitié qui finalement. Je pense qu'ils étaient au berceau à l'époque où tu parlais.
Bon, les langages de balisage, on va les écarter puisque c'est un peu différent. Mais est-ce que ce serait pas bien que. En fait, de remplacer le JavaScript par PHP et du coup, tu codes la partie serveur en PHP et la partie interprétée par le navigateur en PHP aussi?
Alors, pour toi, je vais te donner un scoop.
Pas possible.
Apparemment, ce serait plutôt l'inverse qui va se produire.
Oui, enfin, tu codes la partie. Enfin, moi, je me vois mal faire des scripts JavaScript.
Ah si, ça s'appelle Node.js.
Ouais. Non, mais côté serveur, t'arriverais
à... Ça s'appelle Node.js.
D'accord.
Et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que justement, il y a beaucoup de plateformes qui commencent à adopter JavaScript comme langage standard, comme langage de base.
Mais le langage côté serveur.
J'ai un autre côté scoop.
Langage côté serveur.
Ah ben langage GNOME.
GNOME, voilà,
j'allais en dire. GNOME va vers JavaScript, et donc ce sera le langage que tu vas utiliser, enfin le langage de haut niveau que tu vas utiliser pour donner, enfin, gérer le comportement de ton interface.
Et donc moi j'ai juste refaire un point aussi, Windows 8, tout ça, normalement HTML5 et JS sont aussi des langages de programmation par défaut sur Windows 8. Voilà.
Ouais.
Jamais utilisé. Hein, je...
les deux que j'ai vus,
c'est des... Faut savoir pour nos très rares auditeurs que nous avons une personne à l'autre côté qui aime bien Microsoft, qui aime bien Windows, qui aime bien
C-Sharp. On en parlait au début,
je défendais un portable Mac.
Et dont nous tairons le nom. Hein, pour lui éviter des aventures à la sortie du Hackerspace.
Ouais, il va y avoir une pluie de pingouins.
Non, j'ai aussi des VM quand même, parce que j'ai aussi des VM Linux, hein, je voulais cacher. Mais j'ai même une backtrack cachée.
Mais normalement, c'est le contraire. On a le host en Linux et la VM, c'est le Windows vraiment pour les
plans. Moi, je suis sous macOS en fait.
Ah, même pas, moi. Mes VM, c'est tous du Linux, tout est mon Linux, je n'ai pas un seul Linux.
Bah, chez moi, j'ai pas un seul Windows, mais les rares fois où tu veux tester Internet Explorer, justement, pour débugger.
Bah,
ouais,
avec quoi tu veux passer Internet
Explorer. Franchement, je sert un peu à ça, non
Tu crois que tu mets un peu avec le 9
La grosse difficulté quand tu fais du web avec Windows, c'est que justement, pour installer iOS 6, iOS 7, iOS 8, iOS 9, et peut-être iOS 10 sur la même machine, c'est pas évident.
C'est quasi impossible. Tous en même temps, il faut avoir. Bah, t'es obligé de passer pour une VM, avoir au moins XP et puis 7 et. Bah, il faut 2 VM.
Ouais.
Mais alors, là, je.
Tu mets pas pour XP.
Je fais appel à mes souvenirs. Je crois que Microsoft a mis à disposition des machines virtuelles pour tester justement des sites web sur leurs anciens navigateurs.
Allez, je change de sujet.
Ah, oh bah non, c'était bien là, on pouvait trouver.
Juste quand même.
Ouais.
Parce que il y a pas longtemps, il m'est arrivé, je vais raconter une petite anecdote qui m'a fait marrer. Sur le site d'un transporteur, donc type Colipost, dont je tairai également le nom. type Colipost, c'était pas Colipost. Non, parce que mine de rien, on pourrait presque croire que la poste est vachement avancée par rapport à ce que je vois. Donc, en flash, tout en flash pour faire du tracking de colis. Sachant que tout en flash, pour en gros, tu donnes un numéro et il te dit où il en est. On s'en flash, tu sais pas trop pourquoi, mais c'est en flash. Tu regardes le à propos de cette jolie fenêtre flash où là ils disent ah faut que vous ayez genre flash 3 d'installer et version minimale des recommandée c'est Internet Explorer 4, Netscape 3 je crois ou un truc comme ça. Là quand même ils ont touché le fond, à un moment il faut qu'il y en ait qui fassent une refonte quoi, parce que c'est plus possible, ça fait 15 ans que ça n'existe plus.
Moi j'ai un problème là-dessus, c'est que quand on tape mon vrai nom dans Google, J'utilise tout le temps mon pseudo New York, hein, donc il y a très peu de choses qui passent avec mon prénom dans Google. Et on tombe notamment sur un site que j'ai développé quand j'avais 15 ans, sur lequel il est marqué recommandé pour Internet Explorer 5. Que j'avais fait avec Frontpage ou le truc de l'époque, je sais plus.
Ah, c'est bien les.
Oh, et j'ai plus les mots de passe pour aller le supprimer ce site-là, puisqu'il est sur un compte sur un page perso Wanadu et il appartient à une collectivité.
Ouais, parce que encore plus moche que Frontpage de l'époque, tu pouvais faire tes pages web avec Word. Ça battait tous les records.
Alors, le sujet suivant, c'est Moebius qui s'y colle, qui voulait nous parler du MSP430.
Moebius. Ah mince, je croyais que c'était les Américains.
Ouais, moi aussi. ça aurait été vachement plus court.
Les Américains, je vais rien avoir à dire du tout,
C'est bon. Mais c'est déjà bien que tu nous le dises.
Donc le MSP 430, c'est une petite machine que TI a...
C'est pas une maladie.
C'est Texas Instruments qui a fait ça. Donc en fait...
Donc là, pour nos auditeurs, vous imaginez, là, Moebius est en train de nous présenter le MST.
Tout ça pour aller.
Le MP conducteur, hein, dans la discussion comme ça. Contre le PHP-JS de tout à l'heure.
Et la maladie, c'est
Donc, tu l'as déjà essayé ?
Ouais, bah je l'ai testé rapidement et grosso modo, tout ce qu'il y a à faire, c'est compiler un GCC, un PBG, un logiciel de debug.
Donc en gros, par rapport à de l'Arduino, en gros, c'est tu fais ton toolchain à la main et...
Ouais, tu utilises l'IDE que tu veux. Ce que je reproche à l'Arduino, c'est que... moi, j'ai jamais voulu l'installer, je vais essayer de trouver des makefiles avec l'Arduino et puis...
L'IDE de l'Arduino... Bon, déjà, ce qu'il a développé, t'as pas besoin d'avoir un truc super poussé. Donc, il suffit en lui-même. Après, il tourne pas trop mal.
Non, mais sinon, tu...
J'ai pas envie d'installer Java sur ma machine.
Parce que sinon, t'as aussi... Il y a une petite option qui est vachement bien dans l'IDE de l'Arduino, c'est que tu as un truc... Utilise un éditeur externe. Ah. Et en gros, tu codes sur un autre truc, et dès que tu... En gros, il te sert juste à compiler et à te l'envoyer vers...
Ah, moi, je fais des copier-coller à chaque fois.
T'as un petit module qui va bien dans les préférences d'Arduino, c'est pratique.
Je code plus trop Arduino en ce moment.
Et alors, donc, au niveau caractéristique, en quoi il se différencie ?
Du coup, l'Arduino, je ne l'ai pas touché.
Non, je veux dire, par exemple, t'as combien de...
D'entrée de sortie ?
T'as 14.
Pour digital ?
T'en as 5 de digital, si je me trompe. Ça fait une semaine que je l'ai, tu vois.
Ouais. Le langage programmation, c'est du C.
Et juste pour...
C'est du C++.
C'est du DIP ou c'est... au niveau du format, c'est quoi? C'est des trucs avec des grosses broches
Bah, c'est des pentes. T'as 3 GRND, GRN.
GND.
GND.
Ça, c'est la masse à la regarde.
Ouais.
Ce n'est pas la question. Non, je veux dire, le format, en fait, sous lequel ça se présente, c'est...
C'est le même que l'Arduino.
D'accord.
Ouais, voilà.
C'est quasiment le même format derrière l'Arduino.
Non, mais c'est... Et donc c'est très plaisant de programmer en fait là-dessus. Moi je connais, je touche plus à la question programmation là-dessus. Là.
Et pourquoi c'est...
Matériel, c'est pas vraiment mon truc. Désolé.
Et pourquoi c'est plus plaisant?
Grosso modo, t'as du C et t'as deux variables à gérer. C'est en 3. T'as P en dire, P de dire, non du coup 6. P en dire, P de dire, P en in, P en out, P de in, P en out, P de out.
Ouais.
Donc en gros, tes variables P1 dire et compagnie,
c'est pour
ça donne la direction donc en entrée ou en sortie
ouais.
De chaque pin.
Et P1 in, P1 out, c'est très sorti. Donc c'est bit par bit quoi. Tu déclares des masques chacun des pins. Mm-hmm. Et puis.
Par contre, la structure du programme, t'es pareil que dans sur Arduino, t'as une fonction loop ou l'équivalent, enfin, je sais plus comment on dit sur Arduino.
Oui, non,
sur
Arduino, c'est loop.
Non, mais je veux dire, t'es sur une boucle et...
Je pense pas, enfin, peut-être un go-to, un truc, enfin, un go-to.
Bah, grosso modo, c'est du C, tu peux faire une boucle
mais...
ou tu peux...
Non, mais faire un boucle, c'est aussi... Sur l'Arduino, tu as un mini... Une mini OS, et donc... Dans ces fonctions-là, effectivement, il va repérer la fonction loop. Enfin, tu as une fonction init qui permet d'initialiser tout. Et tu as une fonction loop, en fait, qui, dès qu'elle se termine, l'Arduino la relance.
Ouais.
Donc, mais avant de la relancer, généralement, il va faire quelques tests, voir si on cherche à le contacter par l'un ou l'autre des...
Il peut y avoir des interruptions.
Voilà,
les interruptions, ça ne fait pas la fin de la boucle, c'est tout le temps.
Non, non, mais... Il fait en fait, il va travailler entre chaque appel à la boucle.
Ouais, je me demandais si c'était la même structure sur le...
Enfin, de toute façon, en tout cas, je ne travaille pas comme ça.
Mais est-ce que l'Arduino, ils ont fait un pseudo-langage et, comme tu le dis, un petit mini-OS qui permet d'avoir cette méthode-là?
C'est du C.
Mais c'est entièrement du C, si tu veux.
Oui, c'est du C.
Tu peux même virer, finalement, le bootloader du Arduino et programmer ton truc comme en AVR standard, enfin comme un Atmel standard.
Et c'est quoi comme processeur?
C'est de l'AVR.
Non, mais
l'ETI.
Oh là l'ETI.
Bah, je pense que c'est le nom d'ailleurs.
Oh là.
Tu pourrais être renseigné quand même, Moebius.
Quelle fréquence, combien de cache,
la fréquence,
combien de mémoire?
Combien de mémoire?
Ouais.
C'est de l'ordre des 16 kilobits.
Bits ou octets?
Ça dépend, en RAM ou en RAM?
En mémoire.
Ou en EPROM.
En EPROM.
Non, mais c'est nouveau pour moi, tu vois.
Ça. Et donc, tu as fait quoi? Tu as fait une LED qui clignote?
Avec quelques boutons, ouais, pour contrôler.
Bravo.
Et le word.
J'ai commandé une plaque de test, donc c'est à partir du moment où j'ouvre ma plaque de test. Elle va arriver à mon anniversaire d'ailleurs, cool.
Qui tombe le.
Le 23.
On passe au sujet suivant, si vous voulez bien. Alors, le sujet suivant, il est pour Schkak. Et c'est le C2I. Alors, le certificat informatique et Internet. Et je crois qu'on peut un peu dire Schkak parce qu'il a réussi à l'obtenir.
Alors, pour resituer les gens, moi, je suis un vieux. Et quand on passait le BEPC, déjà, généralement, on n'avait pas touché un ordinateur si on n'avait pas de micro chez soi. Et donc le B2I là et puis le C2I c'est venu
ouais, bien après.
Bah, bien après quoi.
C'est arrivé à mon époque moi, en fait là, et donc c'était
moi j'ai pas vu hein.
Non, d'accord. Non, je le vois sur les CD maintenant. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années a été mis en place le B2I. Et le C2I c'est même encore un petit peu plus récent, ça avait
4 ans.
De quoi?
Plutôt 4 ans, hein.
Un peu plus, mais...
Écoutez, on va laisser le spécialiste la question de parler.
Je suis pas spécialiste du tout. J'ai lancé le mot tout à l'heure, alors il a mis sur le programme.
Jette-toi à toi, hein.
Je suis pas spécialiste.
Alors, le C2I, qu'est-ce qu'on y fait? Et puis, à l'arrière, on peut rappeler ce que fait le B2I. On est vieux comme moi.
Alors, c'est 2011, le C2I actuel. C'est super récent,
ouais. Ouais, mais enfin, il y avait déjà des C2I qui existaient.
Ouais, mais ça s'appelait pas C2I.
Si.
Si,
bon, si moi j'ai mon C2I, il a plus de 2 ans et ça s'appelait déjà C2I. Bon.
Schkak, quand tu as fait ton B2I, c'est quoi le B2I?
Alors, B2I, c'est collège et lycée,
ouais,
ensemble.
Justement.
Ouais, il y a deux niveaux.
Et donc, on t'apprend à faire quoi?
C'est une bonne question.
Je me souviens d'avoir obtenu, mais effectivement, je me souviens plus du contenu.
Qu'est-ce qu'on avait fait?
Je pense que grosso modo, tu devais savoir à quoi correspondait la taille d'une disquette.
Ça ne sert plus à grand chose aujourd'hui.
Ça ne sert plus à grand chose, mais repose la question. Enfin, moi, j'avais eu une question comme ça quand j'avais passé mon C2I. En gros,
toujours dans C2I.
Ouais, c'est des questions récurrentes. Oh, j'ai une disquette. Est-ce que je peux mettre un fichier de, je sais pas combien dessus? Alors après, ouais, mais c'est une disquette quoi? C'est de l'ordre, c'est du zip.
Oui, et puis. La disquette, si c'est un méga cadre, elle est formatée en quoi?
Voilà.
Ou elle est formatée en 2N. Quand effectivement, les disquettes...
J'ai le droit de compresser le programme, ça.
Une compression,
La récurrence est évoquée.
J'ai connu la grande époque, vraiment, où les disquettes, tu en trouvais partout dans les supermarchés. Où donc tu les achetais au moins cher possible et où même les disquettes, tu prenais les disquettes 720, mais tu prenais les disquettes 720 et tu faisais un trou dans la disquette pour pouvoir la formater en Améga 4. Donc comme ça, tu les payais moins cher. Bon, évidemment, généralement, tu passais ton temps à les formater pour voir s'il n'y avait pas trop d'erreurs dessus. Mais ça te permettait effectivement de les payer moins cher et d'avoir des disquettes de grosse capacité à l'époque. Hein. Et après, on a cherché à faire des formatages au lieu d'avoir un formatage à 1 méga 4, on cherchait à formater jusqu'à 2 mégas, puisque en fait les disquettes de 1 méga 4,
oui, je crois qu'on voulait
la capacité totale maxi réelle est de 2 mégas.
Ça dépendait de la tête de lecture, j'imagine, de lecture.
Ça dépendait du formatage aussi.
Oui. Mais enfin, ça dépendrait, j'imagine, de la précision de la tête d'écriture qui arrivait plus ou
moins. Non. C'était, si tu veux, les disquettes. En gros, c'est des disquettes 2 mégaoctets non formatées. Et une fois que tu les formates, forcément, oui. T'as de la perte.
Oui. Bon, en revenant, c'est 2i.
Voilà, c'est...
Donc, le B2i, on ne sait pas trop ce qu'on y faisait, mais il fallait parler de disquette. Voilà, c'est ça.
Bah, grosso modo, je pense que c'était allumer un ordinateur, ouvrir un logiciel, et tout ça. Il me semble. C'était tellement basique que je vous disais.
Moi, je me souviens qu'on me l'a donné sans que je le passe. Dis, ouais, non, toi, tu réparais les ordinateurs, allez, vas-y, je te signe ton papier.
Je me souviens plus, enfin, je crois pas l'avoir passé ce truc-là.
Mais... Non, mais c'est récent.
T'es un peu trop vieux.
Ouais. Moi, je crois que c'était la première année dans mon collège.
T'es né en quelle année, toi?
37.
Ah oui, j'avoue que
j'ai eu. Je suis plus jeune, je l'ai pas passé, je crois. Bon, alors, ça dépendait peut-être aussi des.
De 83, mais j'ai déménagé, peut-être que du coup. J'aurais dû le passer en 3ème dans ta lycée, mais entre temps j'ai déménagé, la veste en 4ème, donc voilà.
Enfin, de toute façon, ça n'avait aucune espèce d'importance.
Et donc le C2I, la consécration.
C'est la suite de ce B2I, on sait pas trop ce que c'est.
Donc le C2I, délivré par les établissements supérieurs français certifiés LMD. Donc université, voilà.
Donc si t'es dans une école d'ingé,
voilà,
tu l'as pas.
Et qu'est-ce qu'on y apprend alors?
Bah, et j'avais une autre question aussi.
J'ai vu le passer l'année dernière, j'ai jamais foutu les pieds. Là.
T'étais volontaire pour le passer ou c'était dans le cours de
cours d'études? Tout le temps t'as l'examen.
Moi, j'ai été volontaire en disant,
c'est pas facile de
je vais l'avoir les mois d'anglais, ce serait con de pas avoir la ligne de diplôme, tu vois. Ouais. Non, c'était pas obligatoire. Il y a d'autres filières où c'est obligatoire.
Et de plus en plus, apparemment, c'est comme le CLES ou autre, ils veulent... Alors le CLES, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, c'est une certification en langue. Ce serait un peu l'équivalent du TOEIC, mais en universitaire et en gratuit.
Et en moins compliqué.
Non, pareil. En fait, c'est limite plus compliqué, parce que le TOEIC, c'est... Le TOEIC, en fait, c'est juste de la compréhension orale. Le CLES est beaucoup plus complet, puisque c'est de la compréhension orale, c'est de l'écriture.
La restitution.
La restitution, et aussi, tu as un débat à faire en anglais. Donc,
Of course.
Donc c'est plus complet et comme le C2I, en fait, c'est peut-être des choses qui sont un peu testées ces temps-ci, mais qui vont peut-être tendre à devenir obligatoires à la sortie d'un master ou autre.
Ouais, bon.
Il y en a qui ne le pas trop, mais il y a bien justement que ça parte ailleurs. Mais t'y apprends quoi dans ce C2I?
Oui, il a résumé, je trouve. Je trouve qu'il avait vachement bien résumé.
Le principe, c'est qu'on se retrouve pas comme des cons devant des ordinateurs. Bon, je crois qu'ils ont peur d'un truc, parce que notre génération, en général...
Ouais, mais pour y avoir des milieux de favoriser, il n'y a pas d'ordinateur quand même.
Alors, mais ceci dit, en plus pour Schkeck, pour ceux qui ne le voient pas, il a quand même un ordinateur sur lequel il s'est installé un clavier Beppo, sur lequel il a donné des petites étiquettes, et il se forme lui-même, il s'est formé lui-même à la frappe au clavier Beppo, il fait du LaTeX.
Oui,
il n'y a pas vraiment d'interface graphique sur son ordinateur.
Faut que tu expliques ce que c'est du LaTeX.
Effectivement, il a déjà dû s'embêter un petit peu pendant ses cours.
Voilà, bon. Le principe, oui, c'est ça, c'est de nous apprendre à les fondements, entre guillemets, de l'informatique et d'Internet. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est comme domaine, comment c'est organisé, qu'est-ce qu'on comprend dans le titre, ou bien alors comment faire une recherche sur Internet, où il faut aller voir. Il n'y a pas que Google, par exemple, ou des choses comme ça. Ou bien alors,
qu'est-ce
qu'un logiciel propriétaire,
manuel, comment sortir d'un problème sous Windows? Redémarrer l'ordinateur.
Si vous connaissez les BD, les geeks, ils ont des titres assez accrocheurs à chaque fois, du genre si ça rate, format, ou ce genre.
Tu prends le répondeur dans The IT Crowd, c'est le service informatique où quand t'appelles le service informatique, t'as un répondeur qui fait avez-vous pensé à redémarrer l'ordinateur? Bonjour. Enfin voilà.
Et alors le niveau 2, quand t'as un problème avec Windows, si le niveau 1, le fait de redémarrer la machine n'a pas fonctionné,
tu formates,
tu réinstalles.
Non, après sur Windows Pro,
réinitialisation.
Non, quand t'as un Windows Pro, les messages d'abord changent un petit peu. C'est pas veuillez redémarrer l'ordinateur, c'est veuillez appeler l'administrateur réseau. Parce qu'ils ont supposé qu'il y avait un administrateur système. Et moi, quand je vais voir l'utilisateur, je leur explique que moi aussi j'ai droit à ces messages-là. Alors que c'est moi l'administrateur réseau. Ouais, bah, reviens aux États-Unis, désolé.
Voilà, donc ça c'est la partie théorique. On y apprend des choses intéressantes. Je pense que la plupart je sais déjà, mais pour l'utilisateur lambda, des choses intéressantes. Hein. Je sais pas si tout le monde est sensibilisé au logiciel libre, à la compatibilité ou des choses comme ça. Par contre, il y a une partie pratique sur les ordinateurs où c'est un mode d'emploi de Windows.
Ouais.
Grosso modo, le cours. Genre, pour créer un fichier, il faut cliquer droit ou pour... Enfin voilà quoi. Alors je sais pas si c'est comme ça en général, parce que finalement j'y connais rien en C2I, c'est juste que ce prof là, il fait comme ça.
C'est le C2I, le nom est plus ou moins... est plus ou moins national. Tu as des grandes lignes, mais c'est vrai que l'enseignement est plus ou moins libre. T'as pas un programme encore, il me semble vraiment défini. C'est savoir qu'il y a un fichier, etc. Mais il y a, à mon avis, pas de.
Bah, il suffit de lire le programme, tiens, je vais le lire, pour se rendre compte que c'est vague. C'est travailler dans un environnement numérique évolutif, être responsable de l'ère numérique, produire, traiter, exploiter, diffuser des documents numériques, organiser la recherche d'information à l'ère du numérique, travailler en réseau, communiquer et collaborer. Voilà le programme. Voilà. Donc, franchement, je pense que c'est un bon truc quand même, l'idée
franchement,
à la base.
En fait, du coup, voilà, tu peux faire un C2I sur un smartphone.
Et puis, la plupart des jeunes qui ont Facebook, à ça pour distribuer du document électronique, ils y vont. Hein, les photos, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème.
Par contre, justement, il y a peut-être la petite. Ce que je pense que. Il y a des cours là-dessus où ils t'expliquent un minimum de choses sur la confidentialité et sur finalement que tout ce que tu poses sur Internet. Un peu de chance de disparaître d'Internet. Mmh. T'as peut-être une sensibilisation quand même. Qui
est également une sensibilisation au contrat d'utilisateur final. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous l'avez lu? À quoi ça vous engage?
Le truc là où tu cliques sur suivant.
Sur accepter.
Et
Moi j'ai déjà
dit. Est-ce que vous fait la morale sur le piratage?
Alors ça, on n'en a pas parlé. Disons qu'on m'a sensibilisé au vrai danger, c'est-à-dire phishing principalement.
Sur le fait par exemple de copier un logiciel.
Ah, le piratage dans ce sens-là. Oui. Alors, on nous a rappelé la loi, grosso modo, sur tout ce qui est. Bon, le terme est un peu propre, mais propriété intellectuelle.
Le tout sur un PowerPoint piraté.
Bien sûr que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire.
Et je voulais juste rebondir là-dessus que je ne sais pas si vous avez beaucoup de relations avec les utilisateurs dans vos entreprises, mais moi, mine de rien, des jeunes qui disent « je sais utiliser l'ordinateur », qui arrivaient là...
Ouais, c'est Facebook.
Et ouais, ils n'ont utilisé que Facebook et Hotmail, et tu les mets devant un truc un peu plus compliqué, ça peut utiliser un traitement de texte, etc. Mais il y en a une proportion quand même.
Hein, tu sais, il y en a beaucoup, c'est sûr.
Il y en a même beaucoup qui te disent qu'ils savent utiliser un traitement de texte,
et qui savent pas le faire, oui.
Qui savent surtout utiliser une machine à écrire.
Quoi. Oui, c'est
ça. Genre les styles, personne ne connaît.
Ouais, les styles, oui, honnêtement, dans. Je vais te rendre
ça. Oui, comme je me suis rendu compte, les traitements textes sont mal faits, à mon avis, pour ceux dans la phrase, parce que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un style, ne savent pas l'utiliser. Et du coup, sélectionnent chaque titre, ils font.
Mais depuis le 2007, c'est en plus un peu plus caché l'interface.
Bah, justement, moi j'ai vu les.
Et pour ça, je pense que. On a tendance à cracher sur Windows, mais les dernières interfaces avec la barre là des Word. Et pas mal, parce que du coup, je vois de plus en plus de gens qui se mettent à utiliser les styles, parce que c'est des gros...
Ah, mais ouais, t'as 90,
plus c'est pareil, moi,
t'es plus accessible.
Ça faisait
le format style est plus loin, quand même. Vraiment pour définir...
Oui, bien sûr, mais je veux dire, là, tu as quand même...
Au moins, les gens, ils voient titre 1, sous-titre, machin, et texte, ils comprennent qu'il y a une structure à donner...
Et qu'ils passent un clic droit à modifier sur le titre.
Ça faisait des années que j'avais pas touché à du Word, etc., et là, je suis avec des personnes qui l'utilisent. Et donc j'ai découvert ce petit bandeau Word avec les styles, et justement j'ai trouvé ça mais particulièrement ergonomique. Par rapport à du LibreOffice où ça n'existe pas encore en tant que tel. Bon, alors après moi je suis super pro la tech et je fais que ça, donc forcément.
Moi aussi je prends pro la tech, mais.
J'ai pas toujours ce problème de style, mais j'ai trouvé que pour les utilisateurs c'était vraiment super ergonomique.
Et une autre notion de base que je me suis aperçu que beaucoup d'utilisateurs n'avaient pas, et qui du coup est, sur les nouveaux ordinateurs est beaucoup plus dur à appréhender, c'est tout simplement l'arborescence des fichiers.
Ah bon ?
Je me suis aperçu que les gens ne savaient pas où les documents partaient et comment les retrouver en montant l'arborescence des fichiers normalement. Sachant que sous, depuis Windows Vista, en plus, on la voit un peu moins, puisque tu arrives directement dans ton dossier mes documents, etc. Ça. Et tu sais pas trop où tu enregistres.
D'ailleurs, c'est le truc le plus pourri du monde, c'est la traduction qu'ils ont faite.
Ouais, parce que attention, quand tu sauves en fait des fichiers, les utilisateurs ont souvent tendance à mettre toujours le même nom de fichier. Oui, donc tu as des fichiers Toto qui vont être à droite, à gauche, dans tous les répertoires d'arborescence.
Et des gens, je leur demande d'aller chercher documents en leur disant le nom, puis le nom du... Il y en a plein qui savent pas, quoi. Enfin, dans l'arborescence.
Mais moi, c'est un truc que j'ai trouvé, par contre, particulièrement mal foutu, c'est finalement les traductions qu'ils ont fait. Alors, effectivement, quand t'es en France, les Français préfèrent peut-être avoir des Français. Mais alors, quand t'es là, dans... par exemple, je sais pas, t'es dans le truc téléchargement, et toi, tu veux rechercher l'arborescence, enfin, le chemin qui t'amène là-dedans. Mmh. Alors, donc, c'est dans Documents and Settings, parce que c'est toujours Documents and Settings, ton nom, et puis après, tu cherches Download ou ce genre de choses. Et je trouve que, finalement, moi, en tant qu'utilisateur, enfin, ancien utilisateur, je trouve que le changement, enfin, la francisation du nom est très perturbante, parce qu'il y a des dossiers que tu ne retrouves pas, parce qu'ils ont été... parce qu'il y a un changement de langue, et toi, tu cherches le nom du dossier qui n'existe pas, parce qu'il a été traduit, et qu'en fait, le...
Et imaginez le passage,
c'est ça.
Pour l'admin réseau qui avait fait des mappages de dossiers, etc., sur Windows, le passage de XP à Vista était super douloureux. Mais du coup, en fait, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des variables d'environnement sur Windows.
Il y en a aussi. Il y en a aussi.
Utiliser la variable d'environnement dans des scripts, quoi.
Non, mais par contre, ouais.
Une autre notion dont je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisaient pas, c'est simplement le mail, dans le sens où ils sont tellement habitués à utiliser des webmails, ils ne savent pas utiliser un client.
Oui, ça c'est vrai.
Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui, par exemple, ne relèvent absolument jamais leur boîte mail universitaire, parce que ce n'est pas dans leur webmail habituel, et qu'ils ne savent pas configurer un client mail pour la relever avec leur mail habituel. Et du coup, ils sont au courant de rien.
Moi, je leur ai configuré leur webmail propre mail,
mais bon. Non, mais sinon, juste pour revenir sur le mail,
leur propre client,
ça serait bien que les gens fassent une différence entre la copie et la copie cachée, par exemple. Parce que moi, j'ai même souvenir de, je ne sais plus quel responsable de l'université, voire même le doyen, qui avait envoyé un mail. Il a envoyé le mail, je ne sais pas trop comment il s'est démerdé, c'était même pas, enfin, c'est une liste de diff, mais en copie. Du coup, ton mail, tu le téléchargeais. Comment t'expliquer le temps qu'il faut pour charger une liste de, je sais pas, peut-être de 15 000 emails en copie, quoi.
Tu as même autre aspect pervers de, justement de la copie, enfin, de copie cachée ou web copie, copie normale. Les attachés de presse. Généralement, si tu vas voir une attachée de presse et que tu lui dis bah, « Est-ce que tu pourrais me donner ton fichier d'adresse pour que je puisse envoyer donc, des informations sur mes activités, sur une association ou un truc comme ça ?» Généralement, l'attaché de presse va te regarder et puis va te dire bah, « Va chier, quoi. » Mais tu as des attachés de presse qui, justement, ne maîtrisent pas trop cet aspect-là. Et quand elles envoient un mail à tous leurs fichiers, bah, tu sais exactement à qui elles l'ont envoyé.
Effectivement.
Ça, c'est à la fois une question de formation, mais aussi de clarté sur l'interface.
Je suis en train de chercher un mail que j'ai fait.
C'est historique et personne ne comprend vraiment. CC, ça ressemble à la copie cachée. En réalité, c'est copie carbone.
Copie carbone.
Oui.
L'autre, c'est copie carbone invisible. En plus, ça doit être ça à tous les coups.
Ça doit être comme ça. Les interfaces devraient être vues là-dessus, c'est-à-dire mettre clairement, au lieu de mettre CC, ça ne veut rien dire, un mot, c'est-à-dire que genre correspondant visible ou quelque chose.
Copie ou copie cachée peut-être.
Voilà, ou simplement copie cachée, quelque chose qui clairement montre que dans le titre, que le mail est envoyé avec, quoi, les adresses sont envoyées avec. Parce que souvent les gens n'ont pas de mauvaises intentions, ils n'ont pas une formation particulière et du coup ils se fient à leur intuition face au titre d'échange.
Je vous lis la réponse que j'ai fait à un mec qui a envoyé un mail à 300 personnes sans masquer, en fait. C'était... En plus, il y avait du beau monde. Dans les adresses que j'ai vues, il y avait des médecins de la région de l'Aglo, il y avait des responsables de la créa, etc. Quoi. Donc je lui réponds, « Monsieur, je vous remercie de m'avoir fourni 393 adresses email vérifiées. Je lui revends 50 centimes pièce à un ami spammeur, ça me fera presque 200 euros d'argent de poche. PS, pourriez-vous cependant retirer mon adresse email de votre liste de diffusion? Ça me gêne que 393 personnes que je ne connais pas la connaissent. Merci d'avance.
» Je me suis dit, si t'arrives à les rendre 50 centimes pièce,
oui, c'est mais vérifiez quand même, hein, parce que la liste était cohérente. Hein, j'ai
pas regardé, déjà, hein. Même 1 centime pièce... Ouais, t'auras de la chance.
Ouais, mais c'est vrai, le pire, c'est quand tu reçois des chaînes et que tu vois dans les chaînes de merde, en plus, des grox, et puis que tu te ramènes avec des. En fait, tu as des annuaires complets qui se trimballent comme ça.
Mais les spams ont vécu, c'est ça, à un moment.
Et tout le monde a eu ses parents qui lui ont envoyé
Des LoLcats
ou des PowerPoint.
Ah oui, des PowerPoint.
Non. Ou alors les fameux mails, les hoax et compagnie qui vous disent que attention, il y a un virus aussi. Ouais.
Et il faut pas ajouter
tes parents qui te l'envoient pour dire attention, est-ce que tu as fait gaffe.
Ouais. En fait, c'est dans le mail qu'il y a le virus.
Non, il y avait même des trucs assez sympas. Il y avait un gros hoax où en gros, il faisait supprimer un fichier en disant ouais, alors si vous l'avez, il faut absolument le supprimer parce que c'est un virus, alors que c'est un fichier plus ou moins vital Windows.
Ah, moi j'ai eu le hoax qui a circulé dans tous les hôpitaux et qui est revenu chez nous 6 ans plus tard. Où c'était la petite, je sais plus comment son prénom, qui attendait une greffe de la moelle épinière, etc. Nanana, nanana.
De la moelle épinière.
Ouais, voilà, et donc il y avait le hoax, il fallait contacter tel numéro, CHU de Rennes, etc. Donc j'avais un petit peu honte, je me suis dit merde, je vois le truc passer parce que c'est un médecin qui me l'envoie en plus le truc. Donc j'ai eu un petit peu honte, je renvoie le démenti, je fais attendez, regardez, il y a un démenti sur le.
Sur hoax.je sais pas quoi là.
Oui, et sur le site internet du CHU, je crois que c'était celui de Rennes.
Ils ont voilà. Saturé leur.
Ouais, ouais, parce qu'ils avaient plein de. Qui disaient bien que le docteur cité n'existait pas, etc. Et juste pour les faire chier avant, pour. Genre, en fait, j'ai triché, j'ai dit oui, non, la petite Noémie est morte il y a 4 ans, ouais, c'est trop tard. Ne contactez plus sa famille, s'il vous plaît, parce qu'ils en ont marre.
Non, mais c'est clair, par contre, ça va être choquant, j'imagine, la personne, à chaque fois qu'il naît, imagine même si c'était vrai.
Mais là, c'était un faux. Ouais.
Non, mais imagine c'était vrai.
C'est jamais vrai.
Non mais t'imagines, 10 ans plus tard, quand tu rouvres le couteau dans la plaie, tu retournes le couteau dans la plaie, tu dis ah ouais.
Tu fermes le numéro, tu changes l'adresse.
Mais peu importe, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui t'appelle, mais tu reçois l'email d'une chaîne ou je sais pas quoi, et tu vois, ouais, mon gars, c'est mort il y a 10 ans.
Mais ce qui est drôle, c'est que c'est... là j'ai fait une recherche internet sur cet hoax là, et bien il a commencé à circuler il y a 6 ans, quoi, un truc comme ça, c'est hallucinant.
Ouais. Il y a toujours un con pour les remettre.
Oui, pour le ressortir de
l'eau. Je suis sûr qu'il y a même des mecs, il n'y a pas une API sur ton truc de hoax. Parce qu'il y a bien un mec, tu sais, qui récupère tous les hoax et qui les rediffuse. Qui entretient le phénomène. Comment pourrir le web.
Sujet suivant, c'est les États-Unis par Moebius.
Moebius.
Néon.
Voilà. Il se passe rien aux États-Unis.
Néon, bah voilà. Bah c'est pas qu'il se passe rien, c'est que j'ai pas trop, je me suis pas trop intéressé ces temps-ci. Généralement, je tombe sur un truc sympa, donc voilà.
Bon. Alors, il y a une petite news, il y a une petite loi de Obama qui passe cette semaine, qui voudrait renforcer le coup de pied fait aux hackers, etc. Grosso modo, il veut que les grosses entreprises synchronisent leurs connaissances informatiques pour maîtriser le système, si j'ai bien compris l'article que j'ai lu en diagonale. Voilà, donc ils vont faire un super forum de discussion pour les admins de réseau aux États-Unis. C'est ça la loi.
Il y a éventuellement quelques professeurs d'université. Ouais. Ils sont généralement pas les mieux informés.
je l'ai vu parler Obama quand il disait ça, et il mettait un peu l'accent sur à la fois l'ennemi intérieur et l'ennemi russe et chinois, pour pas les nommer.
Ah oui, parce qu'il y a eu une guerre avec Huawei. C'est pas Huawei, c'est le concurrent de Cisco dans le matériel réseau aussi, c'est Huawei.
Ouais, ça va être ça.
Et justement, il y a de plus en plus de matos chinois qui arrivent, et quand tu vois les problèmes qu'ils ont eu, par exemple, je sais plus où ils avaient, en Iran ou je sais plus où, qu'ils avaient découvert des backdoors matériels, voilà. Tu commences un peu à flipper, tu dis c'est vachement dangereux quand même.
Cela dit, celui qui a fait installer les plus belles backdoors, c'était le FBI ou la CIA qui avait fait installer des backdoors dans la couche de CP.
C'est la CIA, l'enseignement.
Ah oui, non, effectivement.
La couche de CP du CP,
mais ça a disparu entre temps. Apparemment, la faille avait été comblée.
Elle a crevé les yeux à tout le monde assez rapidement, il me semble.
Ah non, justement, c'est parce que c'est pas mal d'années après, parce que le mec qui avait créé la backdoor a fini par.
Mais il l'a fini parce qu'il avait 20 ans, je pense, il devait se taire pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, quand son contrat entre guillemets le silence, il a dit que ça s'était passé comme ça, mais justement,
une backdoor à super bas niveau dans les systèmes Unix. Hein. Ouais.
Mais ça m'étonne pas, moi, c'est quand même pendant je sais pas combien d'années, en gros, les États-Unis disaient non, le chiffrement c'est absolument prohibé, c'est une arme de guerre terroriste, tout ce que tu veux, et que finalement, à un moment, je sais plus si c'était le DES ou peut-être le DES. Enfin, et puis au bout d'un moment, ils ont dit ouais, non, finalement, chiffrez si vous voulez. Peut-être quelque part, t'as envie de te dire ouais, c'est qu'ils ont, les moyens de le déchiffrer comme ils veulent, et du coup, ils disent ouais, allez, on vous laisse l'utiliser, mais en fait, derrière,
ils ont mis en place tout un tas d'infrastructures.
Oui.
D'ailleurs, c'est le sujet d'un des bouquins de Dan Brown, enfin,
Fantasy Digital. La NSA s'est fait offrir assez récemment un un gros bâtiment serveur, un truc absolument immense, à la façon Google. On sait pas trop ce qu'ils vont faire dedans, mais
c'est de la puissance de calcul.
C'est oui, c'est casser des clés, non?
Certainement.
Ou un truc relié à Echelon qui ferait que du truc automatisé. De... Mais il y a justement y a le, un des bouquins de Dan Brown qui s'appelle Forteresse Digitale qui explique un peu le, comment, comment en gros, un mec, un responsable de la CIA, ou je ne sais plus si c'est la CIA, c'est pas la CIA, c'est la NSA, je pense.
C'est la NSA.
Qui, en gros, le sujet, c'est quoi? C'est on a réussi à. Enfin, on a fait un espèce d'appel d'offres d'algorithme de chiffrement, et puis on a réussi à foutre une backdoor dedans, donc maintenant on va le rendre public, et puis comme ça tout le monde va l'utiliser, et puis nous on aura la main mise sur, sur tous les messages qui s'échangeront.
Bon, tout ça pour dire que si jamais les entreprises qui ont participé à ce truc-là font un livre d'or des failles réseau, etc., celui qui arrive à leur pirater sur leurs ordinateurs et à le diffuser, jackpot.
Bah, le problème, c'est que ce serait jackpot, ouais, pas forcément dans.
Toutes les zéro day décrites.
Ça pourrait être dangereux. Ça rappelle un peu les trucs à la Die Hard.
Die Hard 4. En parlant de Die Hard, je sais pas si
vous. Le 20, c'est le 20 février.
Il a plus de 50 balais et il se relance dans un Die Hard.
Ouais, la classe. Mais c'est parce que le 4.
La classe.
Arrête, mais attends, je vais le voir avant de dire que c'est la classe.
Non, mais attends,
moi je vais pas sortir, rassure-moi.
T'as les trois premiers quand même, le 4 il dégotait vachement parce que le 4 déjà c'était un super héros. Je veux dire, tout le monde n'est pas capable de péter un hélico avec une voiture et de dégommer un avion de chasse avec ses mains. Je veux quand même le dire, c'est quand même pas évident.
Non, mais sérieux, il perd 10 litres de sang.
C'est ça, le mec il se fait perfuser entre les prises. Non, mais là par contre, le 4 il m'a vachement déçu sur un point, c'est qu'il n'était pas en Marseille. un die-hard sur Marseille, c'est pas vraiment un die-hard quand même.
Non, c'est clair.
C'est parce qu'il aurait fallu exploser le
ouais, tu vois, il était pas encore assez pas encore assez démonté quoi. Il a pas enlevé la veste.
Mais ce qui est marrant, c'est que juste avant, il a
pas ressemblé à.
Il a
carrément. Il a dû être diminué quand même.
Juste avant, il a joué le petit vieux entre guillemets dans Expendables 2.
Ah, je l'ai pas encore vu.
Enfin,
The Expendables, tu vas me dire.
Il avait pas le rôle du petit vieux. C'était quand même le méchant qui se
battait bien encore lui. Ça va, généralement, c'est quand même un film subtil, plein de philosophie, quand même, ce truc-là. Moi, j'aime quand même tous les grosses brutasses.
Ouais, mais c'est ils font bien de la. Voilà, ils se font bien de l'autodérision.
Parce que, hey, un truc où t'arrives.
Ils sont les vieux pépés, quoi.
Tu sais, un truc où t'arrives quand même à voir. Il s'appelle Schwarzy. Enfin, pas Schwarzy, non, c'était.
Oui, Schwarzy,
Chuck Norris, etc. Tu me dis.
On a quand même des vieux.
Mais
c'était dans son programme, le cinéma d'action américain.
C'est Steven
Seagal. Justement, c'est.
Non, mais carrément,
comme le programme Seagal, quand tu vois l'évolution de sa carrière. Le premier film qu'il faisait au début, effectivement, tu sentais bien l'alerte et tout, envoyer tout ce que tu veux comme coup dans la tranche de l'autre.
Et après, les deux.
Là, tu le regardes dans ses derniers films.
Ah, c'est plus le même.
Ah, le mec, il se bat, il est droit. Tu veux le mec lui envoie un coup de pied ou machin, bon ben hop, il part le coup et c'est tout.
Je suis en train d'essayer de chercher une transition pour passer au sujet suivant, mais c'est dur.
C'est quand
même sûr. C'est juste pour commenter le fait que Mobius n'a pas beaucoup parlé des États-Unis. Donc
voilà, donc
important
coup,
de faire un petit point
cinéma
américain et des sorties voilà, la semaine prochaine.
Mais donc, c'est quoi le prochain sujet?
C'est encore pour Mobius Eye, heureusement qu'il est là. Le prochain sujet c'est SSL Strip et SSL Sniff. Enfin,
ouais.
J'ai pas compris.
Parce que je crois que tu l'as mal écrit. Parce que moi non plus j'ai pas compris.
C'est ça. C'est SSL Sniff.
C'est le premier que t'as du mal orthographié, je pense.
C'est ça, SSL Strip, SSL Sniff.
Non, d'accord, parce que moi j'ai compris Assassin's Creed quand même.
SSL, donc Secure Socket Layer. Ah, je suis trop balèze.
Ouais!
Bah donc, ce sont deux outils en fait, j'ai vu une conférence là-dessus cette semaine.
Peut-être déjà définir le SSL et dire à quoi ça sert, tu vois.
Oui,
ouais, je suis frais.
C'est quoi une clé publique, une clé
privée? Non, 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 non.
Public, elle a l'air bien pris en fait.
Ouais, voilà. Juste pour le faire, ça dépatouille avec ça.
Ah bah oui. Alors, mais il faut que nos auditeurs comprennent.
Fais-nous un protocole d'échange de clés.
Alors une clé publique, c'est une clé que vous allez pouvoir partager avec vos interlocuteurs pour qu'ils, eux, chiffrent avec cette clé pour vous envoyer le message et vous allez pouvoir la déchiffrer.
Des chiffres, ça dépend dans quel sens tu
fais. Bah, il y en a, c'est de la signature.
Non,
c'est la signature, c'est pas la même chose.
Mais là, c'est, oui, tu parles d'un chiffrement asymétrique comme GPG.
C'est pas vraiment un chiffrement PGP, c'est...
Attends, ah, si, t'as du chiffrement. Signature et chiffrement, oui.
Ouais, mais ça utilise des... c'est pas l'algorithme. L'algorithme, c'est derrière, c'est du RSA ou du LGAMAL.
Ouais.
Un homme est confiant, en fait. Hein. C'est sur les termes.
Donc, SSL, schnouf et...
Ah, strip et sniff. Strip
poker.
Strip et sniff.
Bon, alors, grosso modo, SSL sniff, c'est un... Comment dire ? Alors, dans SSL, tu as une chaîne de certificats qui vont se chiffrer les uns les autres. Tous les certificats n'ont pas le droit de chiffrer n'importe quoi. Mm-hmm. Ah, donc, tu as un tag dans le certificat qui va dire j'ai le droit de faire ceci, ouais, je n'ai pas le droit de faire.
Les contraintes du certificat, en fait.
Voilà, les contraintes. Et donc, SSL Sniff s'appuie sur cette chose-là qui n'est pas bien implémentée dans Internet Explorer et Safari, parce qu'ils squeezent complètement ce tag-là. Ils passent toute la chaîne et puis ils vont jusqu'au dernier, tout bêtement. Donc tu peux utiliser toi ton certificat de ton site pour faire un certificat pour paypal.com par exemple. Très bien. Donc à partir de là, tu fais n'importe quelle attaque en Manito Middle et tu reproduis paypal.com dans ton serveur à toi ou en proxy même. Et tu chiffres avec ce certificat que t'as signé pour...
Avec un certificat normal.
Ton faux certificat.
D'accord.
Voilà.
Et quel est le
navigateur...
Oui, enfin, le faux certificat est valide. C'est ça l'idée.
Voilà. Voilà. Pour le navigateur, le certificat est valide. Donc il va converser avec ton proxy ou ton serveur sans s'en rendre compte.
Et donc, le navigateur ou les navigateurs les mieux armés contre ce type d'attaque...
Firefox et Chrome.
D'accord. Opéra.
Opéra, je ne sais pas.
Et puis Opéra,
je crois que ce truc-là date un peu et que Opéra n'était pas très très utilisé à l'époque.
Oui, il l'est toujours pas, rassure-toi.
Mais moi, on en a quand même parlé au début, c'est une faille qui me parlait. J'avais même pas pensé qu'on pourrait faire ce genre d'attaque-là.
Oui, non, ça me paraît.
Ouais, bon, aussi, mais en fait, arrivé là, oui, une bonne faille sur le navigateur.
Sur le fait de ne pas se faire prendre, parce que ton navigateur, il enregistre la chaîne des certificats, il voit que c'est toi qui as signé le certificat.
Oui, mais t'as un certificat valide.
Ils l'ont pas implémenté correctement, donc ils ne s'en rendent pas compte du navigateur.
En fait, tu utilises un certificat, enfin tu achètes un certificat pour toi, qui normalement est censé.
Disons que ça se voit que c'est ton certificat qui.
Mais ton certificat est valide, sauf que tu vas l'utiliser pour signer la clé paypal.com, enfin dans le certificat, oui. Voilà.
Le faux certificat que tu fais.
Oui, et voilà, le navigateur il fait pas la vérification de toute la chaîne, et surtout du truc et habilité, enfin quand tu signes, tu dis. Ce certificat-là est habilité à signer le certificat ou justement il est juste habilité à certifier un serveur, quoi.
Ouais. Voilà. Et donc ça c'est pour la première chose, mais il y a pire, encore pire.
SSL strip.
Ouais, SSL strip, donc attends que je me remémore rapidement. Ah oui, voilà, donc pour pas mal de banques en ligne, d'entrée de jeu, t'es pas en HTTPS. Généralement, les gens vont taper le nom de leur banque. Mmh. Ou même PayPal, quand tu tapes paypal.com, tu tombes pas directement sur du SSL, t'as un 300€ direct vers le HTTPS. Du coup, c'est là que tu utilises ton proxy, pour faire une redirection. Au lieu de rediriger vers paypal.com en HTTPS, tu rediriges vers... En fait, d'abord, tu crées un nom de domaine très court, genre bla.cn, et puis tu utilises des caractères qui ressemblent beaucoup aux slash, mais qui ne sont pas des slash.
Sachant qu'on a le droit à l'UTF-8 maintenant, c'est l'idée aussi.
Ouais, voilà. C'est DNC. Je veux pas dire de conneries. Donc, à partir de là, t'as un nom de domaine dans lequel tu vas mettre un slash. T'auras paypal.com/la fin de l'URL avec les diètes. Point d'interrogation bla.cn, sauf que le tout c'est un nom de domaine, et donc l'utilisateur va aller vers ton nom de domaine à toi, le navigateur va chercher le certificat pour ton nom de domaine à toi, et si tu vérifies pas toi que le slash c'est bien un slash correct et pas autre chose, comme Chrome le fait, parce qu'il il met une emphase sur le nom de domaine, il le met en plus gras que le reste. Mmh. Donc sous Chrome c'est mieux. Donc l'utilisateur va croire qu'il est sur PayPal ou sur ta banque, tout ça, et tu vas leur envoyer ton mot de passe.
Ouais, juste une question justement. Quand tu mets tout à la fin, s'il y a justement des paramètres avec un caractère spécial, point d'interrogation, je vois pas comment en fait, théoriquement, tout ce qui est derrière le point d'interrogation est plus ou moins.
Non, sauf que là il est encodé pour le nom de domaine, t'as le point d'interrogation dans le nom de domaine.
Alors tu mets pas des vrais slash, hein, tu mets un caractère slash.
Ouais, Ouais, non, mais même le point d'interrogation.
C'est pareil, t'as un,
mais il est
t'as
dans
un
domaine,
t'as un caractère qui ressemble au...
Je sais pas, tu peux en mettre justement dans...
Là, genre, je suis sur PayPal, juste pour... Et l'adresse, c'est www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home. Si j'achète le nom de domaine fr.webapps.mpp.home, je peux avoir le sous-domaine www.paypal.com et je mets l'apostrophe pour ressembler à la, au slash, voilà quoi.
Ouais, c'est le principe.
Ouais, c'est l'idée.
Pour faire du clichés de mot de passe. Et tu places sur un réseau, t'automatises tout ça et puis t'as tout. Le type en fait avait testé sur un autre sortie Tor, il avait fait son propre autre sortie Tor. Personne n'a vu qu'ils étaient redirigés. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas tapé son passe. Tout le monde a tapé son passe.
D'accord, ok, l'expérience. Et ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'en fait, on est aux Caraïbes, et tous ces exploits-là, nous, on les exploite tous les jours. ça fait des années qu'on a arrêté de travailler, quoi.
Bien sûr.
D'ailleurs, faudra...
Non, là, c'est pour mettre en garde, moi, je le...
Oui, donc il faut faire gaffe au nom de domaine. Mais comment tu fais la différence entre ton slash et ton faux slash? C'est quel caractère, d'ailleurs, ton faux slash?
Elle n'est pas rentrée dans les détails dans sa conférence.
C'est un slash, il est 37 degrés au lieu de 38, tu vois. C'est...
Ou même tu les inverses, ça, c'est dit, l'anti-slash.
Tu penses qu'on pourrait l'utiliser dans un moment. Mais tu regarderas dans la table de caractère de.
Parce que ça doit être un truc implémenté dans le navigateur, ça. Je mets en surveillance le faux slash, attention.
C'est vrai que moi, maintenant, on va tous les faire.
Je m'avance peut-être, mais je pense que tu dois même en avoir plusieurs qui ressemblent à des slash.
Mmh. Tu peux des pipes par exemple pour jouer sur.
Non, mais même.
Oui, le pipe est en marque. Hein.
La Yota Italie.
Parce que la question c'est comment s'en prévenir. Parce que là, je vois pas de solution. Si l'adresse est la même, le HTTPS est la même, à moins d'aller lire le certificat.
Et bah t'es baisé.
Et même en lisant le certificat.
Bah non, parce que du coup,
le certificat est valide. Hein.
Oui, mais le certificat de ton site, tu le vois dans le. Tu ouvres le certificat,
tu vois la description, tu vois
les autorités, tu vois que c'est, ça colle pas quoi. Mmh. Il faut aller lire le certificat, personne ne fait ça.
Ou bien lire l'adresse.
Mais si le caractère avait peut-être, t'as beau lire l'adresse.
Était de prouver finalement que se baser sur du HTTPS, c'est bien, mais quand on attaque directement le HTTP, le HTTPS, c'est un peu. Et donc, il est conseillé pour la plupart de ne pas du tout avoir de port 80, sauf que ça foutait la merde. C'est pas une stratégie bonne pour une banque.
Par exemple, ah bah ça c'est clair.
Tu veux aller sur un autre site, quoi, c'est tout.
Ouais, donc la morale, c'est quand vous bougez de l'argent, lisez les certificats.
Ouais.
Est-ce que ça vous arrive de... vouloir commander un truc sur internet et au dernier moment tu
fais pas ton achat parce que quelque part voilà c'est ça c'est la sortie du GPM et là tu déplaces le problème
parce que t'as un site.
J'ai pas compris.
Est-ce que ça vous arrive de ne pas finaliser un achat compulsif sur internet parce que finalement le site il est pas un GPS ou des conneries comme ça?
Oui, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'était pas un achat, c'est que l'année dernière en novembre j'avais été à un salon et on m'avait filé une carte SIM JoMobile avec crédit pour tester. Donc JoMobile, pour ceux qui ne savent pas, c'est un MVNO basé sur le réseau SFR. Et quand j'ai voulu m'inscrire, là je suis quand même tombé des nues pour une start-up qui se veut dans la téléphonie, etc. Pour remplir ton formulaire, tu avais un formulaire à remplir avec ton nom, ton prénom, ton mot de passe en HTTP. J'ai arrêté direct la transaction et j'ai fait une petite remarque, j'ai envoyé un petit truc au Community Manager sur Twitter pour lui dire que c'était pas sérieux quoi. C'était...
Après, est-ce que la validation du formulaire n'est pas vers une page HTTPS?
Ah bah, peu importe.
Ça se peut, mais t'as pas moyen de le savoir.
Ouais, voilà.
Bah, faut regarder dans quoi de ça. Tu regardes si le form.
Comme si le kit d'un moyen, ok, on n'arrête pas d'expliquer qu'il faut toujours qu'il y ait le S, mais aller regarder dans le code source.
Voilà, des fois que la validation du formulaire se passe sur le.
Non, et puis même, il faut
aussi. Quand
tu vas chercher le code source, tu fais une deuxième requête.
Oui.
Donc, pour peu qu'il y ait du JavaScript qui a été injecté.
J'ai toujours failli un peu mouvert.
Ouais, voilà. C'est ça, oui.
Je pense que ça bloque pas mal de choses parce qu'on n'arrête pas de dire aux gens il faut regarder le petit cadenas.
Non, parce que maintenant tout le monde le fait.
Avec un cadenas, je te mets en HTTP et puis les gens croient que c'est du sécurisé.
Non, mais disons que pour les sites mal conçus, je sais que ma mère, qui est franchement en informatique, ça elle le regarde, tu vois. Est-ce que c'est HTTP ou HTTPS?
Ouais, mère, elle a pas de carte.
Est-ce que vous sauriez y répondre? Comment PayPal fait pour avoir le truc vert? Moi je fais du HTTPS, mais j'ai pas le truc vert non plus.
Non, parce que alors, ça c'est le certificat qui est vérifié.
Justement, c'est le.
Dans le navigateur Firefox.
C'est Firefox qui vérifie des certificats et ceux qui sont bons. il te met un truc vert, comme ça tu t'es sûr c'est vérifié par Firefox.
Mais il y a un simple certificat, je crois que... Enfin, il faut aussi avoir un certificat d'un certain niveau avec l'ODOL.
Tu vas vérifier par VeriSign.
Ah. Ouais, parce que t'as deux trois autorités de confiance, VeriSign et compagnie, il n'y a pas de soucis. Bon,
c'est d'ailleurs le problème quand tu prends un certificat pour SSL, pour faire du HTTPS, c'est de trouver l'autorité de confiance qui va te faire ça pas trop cher, mais qui va être déjà en fait préinstallée sur la plupart des navigateurs.
Ouais, j'ai pas eu trop de mal ça.
Non, bah, il n'y en a pas,
pas trop cher, c'est-à-dire pour toi.
Face SSL, j'avais marché là-dessus. Désolé si t'es marre. On dit au revoir les auditeurs ?
Oui, au revoir les auditeurs.
Ouais. Au revoir les auditeurs.
Au revoir.
Non mais j'ai envie de faire pipi, c'est pour ça.
Ouais, moi j'ai mon bus qui est pas tard.